Bon, si vous voulez bien, on va reprendre. Je voudrais d'abord, dans ce cours 12, terminer rapidement l'étude des gaz quantiques dégénérés que j'ai présenté dans le cours précédent, de 9h30 à 10h30, en présentant un certain nombre de résultats marquants de ce domaine de recherche, qu'il est bien sûr impossible de passer en revue de manière exhaustive compte tenu de son développement explosif actuellement. Et je voudrais ensuite, dans la dernière demi-heure, présenter une conclusion générale de cet enseignement. Alors, dans la séance précédente, là, il y a une heure, je vous ai montré que depuis quelques années, on sait maintenant produire des condensats de Bose-Einstein, qui sont des objets fascinants, consistant en un grand nombre d'atomes de l'ordre du million, tous dans le même état quantique. On a des fonctions d'ondes macroscopiques de l'ordre de dimension de l'ordre de quelques dizaines, centaines de microns qu'on peut voir à l'œil nu. Ce sont donc ce qu'on appelle maintenant des ondes de matière macroscopiques. On a aussi réalisé des gaz de Fermi dégénérés où les atomes s'empilent les uns au-dessus des autres dans des états quantiques, un par état, comme les électrons dans un métal. Et en fait, le nombre d'études sur ces systèmes est en train littéralement d'exploser en ce moment. Je crois que d'après les chiffres que j'ai, il y a à peu près 1000 publications par an sur ces sujets. La dérivée est toujours croissante et il est impossible de lire tout, c'est vraiment une explosion du nombre de publications. Et si vous voulez, dans le transparent suivant, j'ai représenté un certain nombre de couvertures des grandes revues comme Nature, Science, New Scientist, Physics Today. Régulièrement, cette expérience font la couverture de ces grandes revues. Donc, il est impossible pour moi ici de présenter tous ces résultats. Je me suis contenté de donner quelques flashs, quelques aperçus, quelques jolies photos sur ces expériences. Voilà par exemple une photo montrant l'oscillation du centre de masse et la vibration d'un condensat. Un condensat, c'est un peu comme un objet, comme un cigare par exemple, et puis si on le met en mouvement, il se met à vibrer, il a des modes propres de vibration, et si on le bouge dans le piège qui le contient, il oscille dans le piège. Alors ici, vous voyez, à la fois le centre du condensat bouge et sa dimension bouge, il oscille et le centre de masse oscille et la forme du condensat oscille dans le temps. Voilà une autre photo montrant l'expansion balistique anisotrope d'un condensat, en l'occurrence ici un condensat d'hélium métastable. Quand le condensat est formé, il a la forme d'un cigare allongé. Et puis quand on lâche le piège, quand on ouvre le piège, le condensat s'en va, subit une expansion balistique. Et quand le gradient de densité dans cette direction est plus grand que dans celle-là, les interactions vont faire que le condensat se détend beaucoup plus rapidement dans cette direction, la direction X et Y, que dans la direction Z. Et sa forme passe d'un cigare à une crêpe. On a commencé à allonger comme ceci, et puis il s'étend très rapidement dans cette direction, très peu dans celle-là, et à la fin, on a une crêpe. Cette variation d'anisotropie du condensat est très caractéristique et constitue une signature non ambiguë du fait que le système est condensé. Autre figure qui est assez amusante, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en balayant un champ magnétique, on peut changer la longueur de diffusion et en changer le caractère attractif ou répulsif des interactions. Alors ici, l'expérience qui est faite ici, on part d'un condensat qui a une longueur de diffusion positive, c'est-à-dire que les particules se repoussent, et puis brusquement, en changeant le champ magnétique, on rend les particules attractives, les particules s'attirent les unes avec les autres. Et à ce moment-là, si le nombre de particules, le nombre d'atomes dans le condensat est trop grand, l'énergie cinétique de confinement ne résiste pas à l'énergie d'attraction et le condensat implose comme une supernova. Une supernova, c'est l'attraction gravitationnelle qui est trop forte et qui n'est pas compensée par les réactions nucléaires qui font que l'étoile a une certaine dimension. Alors, cette expérience a été faite, donc, et on produit donc un condensat avec une longueur positive, on utilise une résonance de Feldbach et on le rend brusquement à négatif. Alors cela, le condensat implose, et une fois qu'il a implosé, à ce moment-là, les atomes quittent le condensat et il reste une trace à l'intérieur. Il reste, quand le nombre d'atomes est devenu suffisamment petit, ce nombre d'atomes peut être condensé. Alors ce phénomène rappelle beaucoup ce qui se passe quand une supernova explose. Elle implose, et puis après, toutes les particules sont éjectées, il reste un reste qui est peut-être une étoile à neutrons ou quelque chose d'autre. Et c'est la raison pour laquelle les physiciens qui ont observé ce phénomène à Bologne ont appelé ça une bosé nova, en faisant une astuce de langage entre la bossa nova et la supernova. Donc c'est l'équivalent d'une supernova avec des bosons. Une autre expérience très belle qui a été réalisée à Munich par Immanuel Block et ses collègues, et Ben Heng, c'est de prendre un condensat et de faire deux fuites à des hauteurs différentes. Imaginez que vous avez un récipient d'eau, vous faites deux petits trous, il y a donc deux filets d'eau qui vont sortir de ce récipient d'eau à des hauteurs différentes. Ici, ce qui va sortir, ce sont des ondes de matière sortant à des altitudes différentes. Et si on est au-dessus de la température critique, c'est ici, vous voyez que les deux ondes n'interfèrent pas, on n'a pas du tout de contraste. Si au contraire on est en dessous de la température critique, les deux ondes qui sortent à des hauteurs différentes sont cohérentes l'une avec l'autre, elles interfèrent, et elles interfèrent avec un contraste égal à 1. Donc ça montre que quand le système est condensé, la phase de cette onde de matière est la même en ces deux points. Et d'autres expériences, réalisées aussi à MIT, à Nice, ont montré que la phase de l'onde de matière d'un condensat est la même, uniforme, sur toute l'étendue d'un condensat. D'ailleurs, cette expérience, en fait, montre la possibilité de réaliser ce qu'on appelle un laser atome. Dans un laser, tel que celui-ci, on a des photons qui sont dans une cavité, un nombre macroscopique de photons qui sont tous dans le même mode de la cavité, et l'un des miroirs n'est pas parfait, et il sort un faisceau lumineux cohérent, qui est le faisceau laser. De même, dans un piège où il y a un condensat, on a un nombre macroscopique d'atomes tous dans le même état quantique, et si on fait un petit trou dans le condensat, si on laisse les atomes s'échapper, on obtient ce qu'on appelle un laser atome, un faisceau cohérent d'onde de Bode. Alors tous ces condensats qui sont réalisés ici, c'est des condensats en régime impulsionnel, parce qu'une fois que le condensat s'est vidé, il faut le recommencer, ça demande un certain temps. Actuellement, il y a beaucoup d'équipes, en particulier notre équipe à Paris, qui essayent de faire des lasers à atomes continus, en particulier l'équipe de David Guéry-Audelin à l'École normale, où on essaye, sur un jet atomique, de faire une évaporation en deux dimensions et d'obtenir donc un laser à atomes continu. Autre expérience qui est amusante, une interférence entre deux condensats. Expérience réalisée à MIT par Wolfgang Peterle, on prend un condensat, il y a une forme de cigare, on le coupe en deux au moyen d'un faisceau laser, et on lâche les deux condensats, donc ils tombent, s'étendent balistiquement, et dans la zone de recouvrement, ils interfèrent, et avec un laser sonde, on voit les franges d'interférence qui sont apparentes ici. Autrement dit, ces deux condensats indépendants interfèrent et donnent des franges d'interférence. Et ceci pose un problème extrêmement intéressant, qui a été étudié en détail, que j'ai repris en détail dans le cours de, je crois, de 2000-2001. D'où vient la phase relative des deux condensats? Si les deux condensats au début sont complètement indépendants, s'ils n'ont aucune relation l'un avec l'autre, comment s'établit une phase relative bien définie entre ces deux objets? Autre expérience spectaculaire qui essaye de reproduire une expérience bien connue dans la physique de l'hélium superfluide. Si on prend de l'hélium superfluide dans un récipient et qu'on tourne le récipient, tant que la vitesse de rotation est inférieure à une valeur critique, comme il n'y a pas de friction, la rotation du récipient n'entraîne pas l'hélium superfluide reste au repos. Quand la vitesse de rotation dépasse une certaine valeur, à ce moment-là, le liquide se met en mouvement et il tourne. Mais il ne tourne pas comme un objet classique. Dans un objet classique qui tourne, la vitesse de chaque point de l'objet croît proportionnellement à la distance à l'axe de rotation. Pour un objet quantique de ce type, au contraire, la vitesse de rotation est inversement proportionnelle à la distance de l'axe de rotation. C'est une rotation tout à fait particulière, et c'est la raison pour laquelle ces objets sont appelés des tourbillons quantiques. Et ça, c'est un tourbillon quantique observé dans notre équipe à Paris, dans l'équipe de Jean Dalibard, où on voit en dessous de la vitesse critique le condensat qui n'a pas de rotation, puis quand on dépasse cette vitesse critique, on voit une forme de volcan ici, les atomes tournent et au milieu du condensat, il y a une ligne de zéro de densité. Si on augmente encore la vitesse de rotation, le moment cinétique qu'on essaye de communiquer au condensat se répartit sur forme de plusieurs tourbillons qui forment un réseau, ici, un réseau observé à Paris, un réseau observé à MIT, et ce qui est surprenant, c'est remarquable, c'est que ces réseaux de tourbillons rappellent tout à fait des réseaux de tourbillons observés dans d'autres domaines de la physique, comme la physique des supraconducteurs, et c'est ce qu'on appelle les réseaux d'Abrikosov. Abrikosov qui vient d'obtenir cette année le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la suprafluidité. Autre expérience, je vous ai signalé tout à l'heure que l'une des équations fondamentales sur lesquelles repose l'étude théorique des équations des condensats de Bose-Einstein est une équation non linéaire qui rappelle l'équation de l'optique dans un milieu non linéaire. Et de même, la même manière qu'on peut mélanger des ondes dans un milieu non linéaire optique, on peut mélanger des ondes de De Broglie grâce à leur interaction non linéaire. Et ici, c'est une expérience qui est réalisée à Nice, dans l'équipe de Bill Phillips, où on a trois ondes, 1, 3, 2, qui arrivent sur un milieu atomique, trois ondes de matière qui arrivent et une onde 4 qui est générée avec la relation oméga 4 égale oméga 1 plus oméga 2 moins oméga 3. Donc il est possible de mélanger des ondes atomiques de la même manière qu'il est possible de mélanger des ondes optiques dans un milieu non linéaire. Autre expérience réalisée dans notre équipe à Paris, dans l'équipe de Christophe Salomon, où on voit un paquet d'ondes atomiques, un condensat, qu'on lâche et qui se propage. Alors, en mécanique quantique, tous les étudiants qui commencent la mécanique quantique savent que si on a un paquet d'ondes libres, à cause du fait que c'est une superposition d'ondes planes de fréquences différentes, et à cause du fait que ces différentes ondes planes se propagent à des vitesses différentes, le paquet d'ondes s'étale. Ça, c'est un exercice central en mécanique quantique, l'étalement du paquet d'ondes. Et sa largeur devient de plus en plus grande. Si on a un milieu constitué, non pas d'un atome, mais de plusieurs atomes en attraction, si la longueur de diffusion est négative, cet étalement du paquet d'ondes est compensé par l'attraction entre ces particules, et cette attraction empêche le paquet d'ondes de s'étaler, et on a donc propagation d'un paquet d'ondes sans déformation, ce qu'on appelle un soliton brillant. Peut-être cet effet a été observé, et donc il résulte d'une compensation de l'étalement dû à la dispersion des ondes de Debreuil et la contraction due à l'attraction effective entre atomes. Là aussi, c'est un effet non linéaire. Autre expérience qui a attiré beaucoup d'attention dans les années écoulées, c'est ce qu'on appelle le condensat dans un réseau optique. Si on a une onde stationnaire à une, deux ou trois dimensions, formant des réseaux périodiques de puits de potentiel, et si on condense des atomes dans un tel système, les atomes vont se condenser dans l'onde de bloc d'énergie la plus basse de ce système, et on va avoir un effet tunnel entre puits voisins, effet tunnel typiquement quantique, qui va conduire à une onde de matière délocalisée sur l'ensemble du réseau. Et puis, si on augmente, il y a aussi des atomes interagissent. S'il y a plusieurs atomes dans le même puits, ils vont être proches l'un de l'autre, les uns des autres, ils vont interagir. Et ces interactions, au contraire, tendent à stabiliser le nombre d'atomes dans chaque puits. Elles tendent vers une situation où le nombre d'atomes dans chaque puits va être égal. On va avoir le même nombre d'atomes dans tous les puits. Donc on a deux effets en compétition, l'effet tunnel et les interactions. Et en augmentant, ce qui est remarquable dans ce type d'expérience, c'est qu'en jouant sur l'intensité de l'onde laser stationnaire, on peut augmenter la hauteur des barrières de potentiel et varier l'importance relative de ces deux effets. Et on peut donc passer d'un régime où l'effet tunnel est prépondérant et où les ondes de matière sont délocalisées et où donc les ondes de matière des différents puits sont cohérentes et peuvent interférer, à une situation où au contraire le nombre d'atomes dans chaque puits est le même et où il y a toute cohérence entre ces ondes de matière a disparu. Et pour voir cet effet, il suffit de couper le réseau, de lâcher toutes les ondes de matière et de voir si elles interfèrent ou non. Et cette expérience a été faite et c'est un phénomène qui est également connu en matière condensée, qu'on appelle la transition superfluide isolante de Mott, et qui est représentée ici. Ici, on a une situation où on n'a pas de réseau, on obtient l'image d'étalement d'un seul paquet d'ondes. Ici, quand on a un réseau d'atomes, et que les atomes sont délocalisés dans tous les puits, les différentes ondes de matière interfèrent et donnent naissance à une figure de diffraction qui est la figure de diffraction du réseau, ça rappelle tout à fait les figures de diffraction qu'on obtient en cristallographie. Et puis quand on augmente progressivement la hauteur des barrières de potentiel, ces franges, ces pics de diffraction s'atténuent pour donner une seule tâche correspondant au fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'interférence entre les ondes et on observe uniquement la tâche de diffraction qui provient d'atomes dans un puits bien défini. La même expérience a été généralisée récemment et nous avons eu il y a quelques semaines un séminaire d'Emmanuel Bloch. On part d'un réseau où il y a un atome par site, J, J plus 1, J plus 2. Chacun de ces atomes peut exister dans deux états, plus et moins, ou 1 et 2. Et en mécanique quantique, on sait qu'en plus des états 1 et 2, il y a toutes les superpositions linéaires possibles, des états 1 et des états 2, qui est la richesse de la mécanique quantique. Donc au moyen d'une impulsion pi sur 2 de radiofréquence, on prépare chaque atome dans une superposition cohérente des états plus et moins. Par exemple, moins en bleu, plus en rouge. Et puis, en déplaçant des puits de potentiel qui agissent sélectivement sur l'état plus ou sur l'état moins, on met en contact l'état moins du puits J avec l'état plus du puits J plus 1, on les met en contact dans le même puits, on les laisse interagir pendant un certain temps, ils acquièrent un certain déphasage phi, et puis ensuite on les remet en place. Et sous l'effet de cette interaction, les états quantiques J, J plus 1, J plus 2 deviennent corrélés, ce qu'on appelle en mécanique quantique l'intrication, et cette intrication est quelque chose de très important pour toutes les recherches qui sont faites actuellement pour développer une nouvelle information, qui est l'information quantique, dont on espère qu'elle pourra déboucher sur des nouveaux ordinateurs, les ordinateurs quantiques. Cette expérience est très intéressante, très importante, parce que il est clair que si on a un réseau de très grand nombre d'atomes, toute cette intrication peut être menée en parallèle et impliquer un grand nombre macroscopique de systèmes. Donc ça, c'est un des résultats les plus importants des derniers mois. Autre problème que je voudrais mentionner, c'est que quand on a des atomes très froids, et ça c'est une question qui m'est immédiatement posée quand je fais un séminaire sur le refroidissement laser, vous savez refroidir des atomes, qu'en est-il des molécules? Pouvez-vous refroidir aussi des molécules? Ça c'est une question qui est restée longtemps sans réponse positive, et maintenant la réponse est positive. Et une première méthode pour refroidir des molécules, c'est de les créer à partir d'atomes froids. Si on a deux atomes froids qui rentrent en collision, A plus A, avec une énergie cinétique initiale très petite, avec un faisceau laser, on peut exciter cette paire d'atomes dans un métallier d'un puits de potentiel correspondant à un atome A plus un atome A excité. Alors, le faisceau laser est dans le rouge de cette transition, et vous voyez que la probabilité de transition est maximale au point de rebroussement de la trajectoire classique ici, donc on crée un état lié ici, et la molécule qui est ainsi créée est froide, parce qu'elle vient de deux atomes qui sont froids. Et qu'on peut même faire aussi une photo-association à deux couleurs, une fois que cet état lié est créé, avec un deuxième faisceau laser, on peut retransporter l'atome par émission stimulée ici, dans un autre état lié de la courbe de potentiel initiale. Alors, cette technique a été utilisée pour créer des molécules ultra-froides. Par exemple, au laboratoire à Mécoton, c'est ainsi que les premières molécules ultra-froides de césium ont été obtenues. À Rice, l'université dans le Texas, des molécules ultra-froides de rubidium-87 ont été produites par photo-association d'un condensat et de couleurs. Récemment à Paris, dans notre équipe, nous avons pu créer des dimères géants d'hélium métastable, où les deux atomes d'hélium sont tous les deux dans un état très excité, 20 électronvolts ou plus au-dessus de l'état fondamental, à des distances de l'ordre de 60 nanomètres. Ce sont presque des objets macroscopiques comme des petits virus. Il y a aussi, de manière encore plus récente, plusieurs équipes utilisent maintenant des résonances de Feshbach pour créer des molécules à partir d'atomes froids. Je vous expliquais tout à l'heure, dans le premier cours, ce qu'était une résonance de Feshbach, et on pouvait balayer par un champ magnétique de manière à passer d'une région de champ où la longueur d'onde, la longueur de diffusion est négative, vers une région où la longueur de diffusion est positive, où il existe un état lié très proche du seuil dans le potentiel d'interaction. Ah, donc on part de A négatif, on passe rapidement dans une région A positif, et des molécules ultra-froides se produisent dans l'état lié correspondant, soit par des collisions à trois corps, soit par des transitions du type Landau-Zener. Et de cette manière, plusieurs groupes ont obtenu des molécules ultra-froides, soit à partir de deux bosons ultra-froids, soit à partir de deux fermions ultra-froids. Et quand j'ai préparé ce transparent, il y a quelques semaines, j'avais mis ici, condensat moléculaire, est-ce que la densité de ces molécules va être suffisante pour qu'on puisse réaliser un condensat maintenant de molécules? Et j'avais mis un point d'interrogation. Et maintenant, je suis obligé d'enlever ce point d'interrogation, parce que entre il y a deux semaines et maintenant, trois condensats moléculaires ont été réalisés. À Gilat pour du potassium 40, à Innsbruck sur du lithium 6, et au MIT sur du lithium 6, et j'espère que d'ici un jour ou deux ou trois ou une semaine, un condensat de lithium sera aussi obtenu à Paris dans notre équipe. Donc maintenant, on sait produire des molécules ultra-froides, et on sait les produire en nombre suffisamment important, près de 900 000, pour obtenir également un condensat de molécules. Ça, c'est quelque chose de remarquable qui n'existait pas il y a deux semaines. Maintenant, je voudrais dire aussi pour les fermions, je parlais tout à l'heure de la possibilité de piéger simultanément des bosons et des fermions. Le lithium 6 est un fermion, le lithium 7 est un boson. Et voici dans l'équipe de Christophe Salomon, donc, les courbes de distribution de position du lithium 7, le lithium 7 est le boson et le lithium 6 est le fermion. Et vous voyez que les fermions ont une distribution spatiale plus large. Pourquoi? Parce que les bosons, eux, aiment se condenser dans l'état le plus bas, donc le plus étroit spatialement, alors que les fermions utilisent des états de plus en plus grands, et leur distribution spatiale est plus large. Ici, c'est une figure prise à Rice, où on voit les bosons et les fermions, puis quand on diminue la température, les bosons, leur distribution devient de plus en plus étroite, alors que les fermions, eux, restent sur une distribution spatiale relativement large. Ça montre un comportement tout à fait différent, ce qu'on appelle la pression thermique. C'est la pression thermique liée au principe d'exclusion de Pauli qui empêche la distribution spatiale des fermions de se concentrer. Il y a aussi un domaine que j'explique peut-être plus en détail dans les notes, mais qui est actuellement l'objet de recherches extrêmement intenses de tous les groupes du monde. C'est une fois qu'on a un gaz de Fermi dégénéré, tous les états occupés jusqu'au niveau de Fermi, et si on introduit une attraction grâce à une résonance de Feshbach entre deux fermions de spin opposés, on peut espérer que ces deux fermions se couplent l'un à l'autre pour former une paire, qu'on appelle une paire de Cooper. Et une paire de Cooper de deux fermions, c'est un boson, eux peuvent se condenser. Et on espère observer sur un tel système l'équivalent de la transition superfluide BCS, du nom de Bardeen, Cooper et Schrieffer, où dans un solide, quand on a des électrons qui s'apparient par paire, à cause d'une interaction effective sous l'effet par échange d'un phonon, ces électrons s'apparient paire par paire, se condensent et ça forme un supraconducteur, c'est-à-dire un système superfluide sans aucune friction, sans aucune résistance. Beaucoup de groupes espèrent observer ce même phénomène sur des atomes et observer la transition BFF sur des gaz de Fermi dégénérés. Bon, alors, pour terminer, je voudrais montrer ici à quoi ressemble une expérience typique d'atomes froids. Enfin, c'est une expérience dans notre laboratoire. Grosso modo, c'est une table de 2 mètres de large, 3 mètres de long, avec toute une série d'optiques, composants optiques, des miroirs, des prismes. Ça a l'air compliqué. Voilà, comme ça, il y a un solénoïde qui permet de faire un ralentisseur Zeeman, des cellules qui permettent de piéger les atomes, toutes des composants optiques. Bon, c'est quand même des expériences qui restent à l'échelle humaine, où 2-3 chercheurs peuvent travailler, peuvent maîtriser l'expérience. Mais de la même manière que les lasers ont été miniaturisés, petit à petit, on peut se poser la question, est-il possible de miniaturiser ces expériences? Et la réponse est oui. Voilà par exemple un condensat sur une puce réalisé à Munich. Ça c'est une pièce de monnaie. Ça vous donne un peu la dimension. Au lieu d'avoir des solénoïdes dans des champs magnétiques, on a des fils gravés dans des substrats qui permettent de créer des champs magnétiques, des gradients de champs magnétiques. Et on arrive à créer des condensats situés à une centaine de microns. Donc des condensats à une température de 1 microkelvin situés à une centaine de microns d'une surface qui est à la température ambiante. Et ce type de recherche maintenant se développe partout dans le monde, à Munich, à Heidelberg, Tübingen, Sussex, Harvard, Gila, Orsay, toute une série d'équipes essayent maintenant d'étendre toutes ces expériences à des composants de plus en plus petits pour essayer de faire des systèmes qui seraient plus facilement utilisables. De sorte qu'on peut rêver et penser que peut-être dans 10 ans, 15 ans, il y aura des interféromètres à ondes de matière sur des condensats qui remplaceront dans les avions pour la navigation inertielle les gyromètres laser. Bon, ça c'est comme ça qu'évolue un peu la recherche. Donc j'en ai fini avec cette revue nécessairement trop partielle et trop succincte, donc je m'excuse de tous ces sujets, mais il est évident que j'ai déjà passé 5 cours du Collège de France sur les études approfondies des condensats. Je ne peux pas, dans cette demi-heure, passer en revue toutes les applications des condensats de Bose-Einstein. Je voudrais maintenant donc passer à une conclusion générale de cet enseignement. Et il m'a semblé intéressant de projeter ici une photo de manuscrit de ma leçon inaugurale. Alors, à 9 jours près, c'est il y a 30 ans, c'est le mardi 11 décembre 1973, que dans le vieil amphithéâtre de la salle 8 du Collège de France, avant les travaux de rénovation, je donnais la première leçon de la chaire de physique atomique qu'on appelle la leçon inaugurale. Je dois avouer aujourd'hui qu'à cette époque, j'avais une certaine angoisse. Et je crois que cette angoisse est partagée par tous mes collègues au Collège de France. Quand on sent qu'on va avoir donné 30 ans de cours, on ne peut pas ne pas se poser la question, est-ce que j'aurai la capacité de renouveler l'intentionnement, de ressourcer l'inspiration, de raconter des choses qui intéressent les gens. Parce que les gens qui viennent ici ne viennent pas pour un diplôme, ils viennent pour apprendre des choses nouvelles. Et ce n'était pas évident. Donc j'avais une certaine angoisse. Mais je dois dire maintenant que cette angoisse est complètement dissipée parce que notre domaine de recherche a subi au cours des 30 dernières années des bouleversements complets. J'ai essayé de le montrer cette année à quel point le champ de recherche était complètement renouvelé et avait explosé dans des directions tout à fait différentes. De sorte que si j'avais à continuer un cours, j'aurais aucune difficulté à trouver toute une série de thèmes, quelques-uns ici, condensat dans des réseaux optiques, transition superfluide BCS dans un gaz de Fermi, molécules ultrafroides, condensat moléculaire, système de dimensionnalité réduite à une dimension ou à deux dimensions, limite ultime des interféromètres atomiques, les agrégats, le chaos quantique, et cette liste n'est pas exhaustive. Je voudrais mentionner en passant qu'il y aura un enseignement qui continuera l'an prochain sur ce type de physique. En effet, mon collègue italien, Sandro Stringari, qui est un des spécialistes les plus renommés dans le domaine de la condensation de Bose-Einstein, qui a écrit un livre dont j'ai mentionné tout à l'heure l'existence, va être titulaire de la chaire européenne du Collège de France pour l'année 2004-2005, et qui m'a dit qu'il allait donner un cours sur la superfluidité, et que la culture très vaste que ce physicien possède sera un cours qui sera susceptible d'intéresser non seulement les physiciens atomistes et moléculaires, mais également les physiciens de la matière condensée, les physiciens de la matière nucléaire, parce que dans les noyaux, il y a aussi des phénomènes de superfluidité, et donc ça sera un enseignement extrêmement intéressant. Maintenant, il m'a semblé peut-être intéressant, dans cette dernière demi-heure, d'essayer de comprendre d'où vient la vitalité dont on fait preuve la physique atomique et moléculaire et l'optique au cours des dernières décennies, pourquoi ça s'est passé comme ça, quelles sont les spécificités, les caractéristiques originales de ce domaine de recherche qui permettent de comprendre ces avances et ces progrès. Je voudrais classer ces raisons en deux. D'abord, des raisons qui sont communes à tous les domaines de recherche, et j'essaie de les expliquer ici. J'ai un schéma, j'essaie de me faire un schéma pour comprendre comment un domaine de recherche évolue, comment il progresse. Il me semble que le point de départ, la motivation essentielle d'un chercheur, c'est d'essayer de comprendre. Il essaie de comprendre des mécaniques, il essaie de comprendre des phénomènes, de les analyser, d'en trouver un petit peu le ressort intime. C'est ça, à mon avis, qui est le moteur. C'est ça qui fait qu'un chercheur est excité par ce qu'il fait. Il essaye de comprendre. Quand on essaie de comprendre les mécanismes physiques, en général, apparaissent des nouvelles idées. Qu'on a une meilleure compréhension, qu'on a acquis une meilleure compréhension, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Ça, c'est absolument inévitable. Bon. À la suite de ces nouvelles idées permettent de construire des nouveaux outils d'exploration, des nouvelles méthodes d'études qui n'existaient pas auparavant parce qu'on n'avait pas ces idées. Et ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes permettent d'aborder des nouvelles situations et d'étudier de nouveaux phénomènes physiques qui étaient inaccessibles auparavant parce qu'on n'avait pas ces outils pour les aborder. Et ces nouveaux phénomènes, on se pose la question, on essaie de comprendre, et ainsi de suite. C'est une boucle qui ne se ferme jamais. Et évidemment, tout le long de cette boucle apparaissent des applications, bien sûr, des applications extrêmement importantes et qui s'étalent dans toutes les directions et qui se prolongent dans toutes les directions. Je voudrais peut-être donner un exemple concret, l'exemple du laser. C'est Einstein qui démarre ce domaine en 1917, quand Einstein essaie de comprendre la loi de Planck, du corps noir, en termes de processus élémentaires d'émission et d'absorption de photons par les atomes. Il se rend compte alors que pour reproduire la loi du corps noir, on est obligé d'introduire le concept d'émission stimulée. Un atome qui est excité peut retomber dans l'état inférieur, soit en émettant spontanément tout seul un photon, soit en émettant un photon qui est induit par un rayonnement incident. Ça, il introduit donc le concept important d'émission stimulée. Parallèlement à ces études, au cours des années 50, apparaissent des situations hors d'équilibre, par exemple le pompage optique, les collisions dans une décharge, montrant qu'on peut créer des situations où les populations des niveaux atomiques ne sont pas régies par l'équilibre thermodynamique, où des niveaux excités peuvent être plus peuplés que des niveaux inférieurs. À ce moment-là, Taunt, en cours des années 50, se rend compte que si un milieu est inversé, les processus d'émission stimulée deviennent plus grands que les processus d'absorption et que la lumière peut être amplifiée par un milieu où les populations sont inversées grâce aux mécanismes d'émission stimulée. Et par conséquent, on peut faire un amplificateur de lumière et commencer, si les gains deviennent très supérieurs aux pertes, le système peut devenir instable et se transformer en oscillateur. Et à ce moment-là, on a un laser. Et à ce moment-là, apparaissent des nouvelles sources micro-ondes lumineuses qu'on appelle les masers et les lasers. Au début, les systèmes sont compliqués, difficiles, les expériences sont complexes. On a l'impression que c'est un sujet qui ne va pas déboucher sur beaucoup d'applications, mais petit à petit, ces techniques s'améliorent, la technologie des lasers se simplifie, et maintenant, on a des objets comme ceci qui permettent d'avoir des lasers miniaturisés, vous avez tous des lasers miniaturisés dans vos lecteurs de compact disque. Et à ce moment-là, des nouvelles spectroscopies apparaissent, dont j'ai parlé au cours de cette année, les spectroscopies non linéaires, l'absorption saturée, les transitions à plusieurs photons. La performance des lasers se développe dans toutes les directions, puissance, monochromaticité, balayage. Des nouveaux champs de recherche apparaissent, des nouveaux objets apparaissent, comme les condensats de Bose-Einstein. Et à propos de ces sujets-là, on se pose des nouveaux problèmes maintenant sur les condensats de Bose-Einstein. Est-ce qu'on peut étendre toutes ces idées aux ondes de matière, est-ce qu'on peut observer une transition BCS, toute une série de problèmes se posent, et ainsi de suite. Donc vous voyez, comment, si on essaie de comprendre comment ce domaine de recherche a évolué, on voit, on retrouve un petit peu le schéma général que je donnais tout à l'heure. Ceci montre, à mon avis, qu'il est tout à fait artificiel de faire une distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Il y a une bonne recherche et c'est tout. Une bonne recherche, et à partir d'une bonne recherche, des applications voient le jour. Deuxièmement, quelque chose de très important, c'est qu'il est dangereux d'essayer de tout piloter par les applications et de donner de l'argent aux chercheurs uniquement sur des programmes prioritaires avec des objectifs bien définis. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe à partir d'un essai de compréhension, d'un essai d'approfondissement des concepts et les applications apparaissent en général de manière inattendue. Je pense aussi que le cours que j'ai essayé de présenter cette année, en prenant toute la physique atomique depuis 1950 et en la présentant jusqu'à maintenant, montre l'importance des efforts à long terme. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits sur la recherche des atomes, la recherche des interactions matière-rayonnement, sur l'enseignement de ces sujets, que finalement, je pense que les développements qui voient le jour actuellement peuvent se produire. J'ai essayé de montrer en particulier comment, par exemple, les transitions à plusieurs photons trouvées dans le domaine des radiofréquences maintenant explosent dans le domaine optique et comment elles conduisent à des lasers de puissance très élevée permettant d'accélérer des électrons à plusieurs centaines de GeV sur des distances toutes petites. Je pense aussi que les exemples dont nous disposons maintenant montrent que finalement les avancées en technologie résultent le plus souvent de ruptures. Je ne méconnais pas, je ne conteste pas l'importance d'une recherche de développement. Quand une invention a été faite, il est important que l'industrie la reprenne et essaye de la développer, de la rendre facile à diffuser et simple à manipuler. Donc une recherche de développement est essentielle. Mais ce serait faux de croire qu'en prenant un dispositif qui marche, en essayant de le pousser au bout, on va avancer. En général, des nouvelles idées apparaissent qui rendent complètement obsolète une technologie donnée. Et j'essaie d'en donner deux exemples ici. Par exemple, les mesures des constantes fondamentales et toute la métrologie en mesure de fréquence. Ici, on voit ici, entre les années 1920 et 1960, les progrès la diminution des incertitudes sur la mesure de la constante de Rydberg. Et puis, au milieu des années 60, les techniques laser apparaissent et vous voyez qu'il y a une rupture de pente. Brusquement, les précisions ont multiplié de manière considérable, puis ça plafonne ici, et de nouveau maintenant, avec l'invention de Ted Hinz des peines de fréquence optique, de nouveau maintenant, une nouvelle avancée décisive qui n'était pas absolument prédictible à partir du domaine précédent. Ça me fait penser que, par exemple que si un gouvernement avait essayé de développer la mesure du temps en demandant aux gens d'améliorer les pendules, bon, on aurait amélioré les pendules, et puis d'un coup il y a les quartz qui apparaissent, les pendules deviennent complètement obsolètes. Puis on améliore les quartz, puis d'un coup les horloges atomiques apparaissent. Et les horloges atomiques, complètement, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, voilà ici un cliché emprunté à Christophe Salomon montrant l'évolution de la précision de la mesure du temps en fonction du temps. Vous voyez qu'il y a à peu près un gain d'un facteur 10 tous les 10 ans. Et à partir du milieu des années 90, il y a une nouvelle avancée qui est faite avec les atomes froids, les horloges qu'on met dans des fusées ou dans des satellites, ou dans des avions, pour se débarrasser de la gravité, et si on espère que le projet Atomic Clock Ensemble in Space permettra encore d'atteindre dans les années 2010 de gagner un nouveau facteur 10. Peut-être avant, hein, Christophe, peut-être en 2006. Et puis on voit aussi, là-dessus, sur ce même cliché, le progrès des horloges à ions, des horloges optiques, et vous voyez que la pente ici est différente, et que peut-être que les horloges du futur ne sont pas des horloges à césium, mais sont des horloges à ions. Donc, vous voyez, ces deux exemples montrent clairement qu'il faut faire attention et il faut laisser une recherche fondamentale de très, très bon niveau se développer, parce que c'est celle qui constitue le terreau à partir duquel des idées nouvelles apparaîtront. Je voudrais aussi peut-être insister sur une spécificité importante du domaine de recherche des photons et des atomes, qui est alors plus particulière à ce domaine. C'est que ce domaine de recherche fournit des situations, des systèmes simples, qu'on peut contrôler, manipuler à volonté, avec une très grande précision, et ces systèmes servent de modèle pour aborder et analyser des situations plus complexes. Si vous voulez, l'état d'esprit de la physique atomique, c'est de partir du simple au complexe, partir d'une situation où on a un seul atome, augmenter le nombre d'atomes et progressivement comment on passe de l'atome unique à la matière condensée. Et évidemment, cette marche, ce point de vue, fait que de nombreuses interfaces apparaissent entre la physique, la chimie, la biologie. Et je voudrais en donner un ou deux exemples. D'abord, expliquer pourquoi les gaz quantiques dégénérés dont je viens de parler ce matin sont-ils si intéressants? Pourquoi ils intéressent tellement les gens? Je pense que ces gaz, les propriétés de ces gaz, les apparentent à d'autres systèmes bien connus en physique, en particulier en physique de la matière condensée, comme les superfluides, les gommes superfluides, les supraconducteurs. Alors, qu'est-ce qui fait que ces systèmes sont intéressants? C'est que les propriétés de superfluidité apparaissent sur des systèmes gazeux extrêmement dilués, près de 100 000 fois plus dilués que l'air ambiant. Alors que l'air ambiant est 100 000 fois plus dilué que la matière condensée. Donc on est dans une situation où on reproduit des effets de matière condensée à des densités 10 ordres de grandeur fois plus petites. À ce moment-là, les interactions entre atomes ont un effet beaucoup plus faible, qu'on peut évaluer de manière plus précise. Et comme on peut en plus contrôler ces interactions en grandeur et en signe grâce aux résonances de Feshbach, on peut étudier comment la transition se fait de manière très détaillée. Et donc c'est un système modèle idéal pour comprendre les effets des interactions dans le problème à n-corps, qui est un problème central de la physique. Et c'est la raison pour laquelle on se réjouit maintenant de voir dans les congrès de physique atomique des physiciens de la matière condensée, réciproquement dans les congrès de physique de la matière condensée des physiciens atomiques. Il y a des échanges conceptuels extrêmement importants. Deuxième exemple que je voudrais donner, les agrégats. Les agrégats, c'est... on essaye de passer d'objets qui sont des atomes uniques à des molécules, puis des 3 atomes, 4 atomes, 5 atomes. On essaye de passer progressivement de l'atome unique à la matière condensée. Je voudrais donner un exemple. Dans le contexte de ce que j'ai étudié ce matin, la superfluidité, je voudrais donner un exemple que je trouve très beau, où les gens font des agrégats, des petites gouttelettes d'hélium 3 ou d'hélium 4. Quand on a une gouttelette d'hélium 4 et qu'on met dedans une molécule, par exemple OCS, et qu'on regarde le spectre de cette molécule, dans l'hélium 3, on trouve le même spectre que si la molécule était libre. Autrement dit, dans une gouttelette d'hélium 4, la molécule tourne librement comme s'il n'y avait pas rien autour. Et ça reflète la superfluidité de l'hélium. Si par contre on prend la molécule d'OCS dans une gouttelette d'hélium 3, l'hélium 3 n'est pas superfluide de température étudiée, et à ce moment-là, les spectres de la molécule sont élargis, montrant que la rotation est avec frottement. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre une gouttelette d'hélium 3 et introduire dans cette gouttelette d'hélium 3, qui contient environ 10 000 atomes, un nombre croissant d'atomes d'hélium 4. Comme les atomes d'hélium 4 n'ont pas la même mobilité que les atomes d'hélium 3, ils vont s'agréger autour de la molécule OCS, ils vont faire autour de la molécule d'OCS une certaine gangue qui va grossir. Et on regarde comment varie le spectre de la molécule d'OCS. Et on trouve à ce moment-là que, à partir du moment où il y a 60 atomes d'hélium 4 qui entourent la molécule d'OCS, le spectre devient celui d'une molécule libre. Autrement dit, sur cet exemple concret, on peut comprendre à partir de quel nombre minimum d'atomes la superfluidité apparaît. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà les résultats, d'ailleurs. Vous voyez ici, dans une gouttelette d'hélium 3, avec 0 molécule d'hélium 4, 7, 25, 35, 60, 100, on voit que le spectre de la molécule d'OCS, de large, devient plus étroit, puis à partir d'un certain moment, il n'évolue plus, et c'est le spectre de la molécule d'OCS libre. Donc ici, les deux couches, on trouve que pour 60 atomes d'hélium 4, il y a deux couches autour de la molécule d'OCS, ces deux couches suffisent à reproduire la propriété de superfluidité. Voilà donc un sujet extrêmement impressionnant. Il n'y a pas que des atomes qu'on connaît, comme les atomes... on peut aussi faire des atomes artificiels. Et récemment, il y a tout, avec les progrès de la physique des semi-conducteurs, le progrès des puits quantiques, on arrive à faire ce qu'on appelle des nanocristaux semi-conducteurs, des atomes artificiels ou des points quantiques, des quantum dots, qui sont des petites sphères de dimension de 5 à 10 nanomètres, des noyaux de sélénure de cadmium entourés d'une coquille de sulfure de zinc. Et comme l'objet est petit, et que les dimensions de l'objet deviennent de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de Bruyne, il y a ce qu'on appelle un confinement quantique dans ces objets, qui conduit au fait que la fluorescence de ces objets, quand on les excite avec une lumière ultraviolette, les raies qu'ils rémettent ensuite sont invisibles. Et qu'en variant la dimension des objets, on peut varier la longueur d'onde du rayonnement qu'ils émettent. On a donc des cristaux fluorescents, et que la fluorescence est très brillante, et surtout ces objets sont stables, on peut les éclairer pendant des heures et des heures sans qu'ils s'abîment. Alors que, en général, des molécules fluorescentes se détériorent au cours du temps, il se produit ce qu'on appelle en anglais le bleaching. Et j'étais très heureux, il y a quelques semaines, de voir plein des chercheurs, précédents chercheurs de notre équipe, peut-être ici, il me semble avoir vu tout à l'heure ici, Maxime Dahan, qui a fait sa thèse dans notre équipe sur des problèmes de refroidissement subrocul et d'oscillation de blocs, il parlait des oscillations de blocs l'an dernier. Après un séjour à Berkeley, s'est familiarisé avec ces techniques et avec une équipe de biologie de l'École normale supérieure, voilà, un exemple de recherche pluridisciplinaire, a réussi à entourer ces nanocristaux de ligands permettant de les lier à des molécules biologiques et a pu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici c'est un neurone et les petits points brillants rouges qu'on voit ici, c'est la fluorescence de ces nanocristaux semi-conducteurs qu'on a accrochés à ces molécules. Et en les observant, on peut étudier la dynamique des récepteurs qui sont impliqués dans la transmission de l'influx nerveux entre deux neurones. Et contrairement à ce qu'on croyait, ces molécules qui assurent la transmission sont beaucoup plus mobiles que ce qu'on croyait, ceci jette un regard nouveau sur cette biologie, cette biophysique. Donc voilà un exemple. D'ailleurs, il se trouve aussi que ces nanocristaux semi-conducteurs, Maxime avait été capable de retrouver sur eux toute une série de phénomènes bien connus sur les atomes, comme le dégroupement de photons, comme des statistiques de Lévy liées à une fluorescence intermittente. Voilà un exemple concret de domaine où des compétences, une expertise acquise dans ce domaine peut être transmise à notre domaine. Enfin, il y a d'autres points qui me paraissent positifs dans ce domaine, qui sont spécifiques à ce domaine, c'est qu'il y a un couplage étroit entre la théorie et l'expérience. Je suis toujours méfiant quand je vois un groupe de théoriciens qui travaillent sans aucun contact avec un groupe expérimental. Ça existe dans certaines universités, il n'y a pas d'expérience sur un domaine sujet. Avoir un groupe de théoriciens qui travaille tout seul, sans un contact avec l'expérience, me paraît toujours dangereux. Ici, au contraire, dans ce domaine, les mêmes personnes peuvent à la fois faire des expériences et comprendre la théorie de ce qu'ils font. Et ça me paraît extrêmement important. Deuxièmement, les équipes de recherche ne sont pas trop grosses, ce qui permet des interactions efficaces, 2, 3, 4 personnes au maximum. Et aussi, je crois que ce qui me paraît important dans ce domaine de recherche, c'est qu'il peut y avoir un couplage important entre la recherche et l'enseignement. J'ai eu l'occasion dans ma carrière d'écrire des livres de mécanique quantique, ou d'optique quantique, et il est toujours beaucoup plus facile d'expliquer les concepts quantiques en prenant des exemples de physique atomique ou des exemples d'optique quantique, parce que le système est bien défini, simple, et il permet d'introduire simplement les concepts de base. Donc, je crois que ce domaine, par le couplage étroit qu'il est sûr entre l'enseignement et la recherche, me paraît extrêmement profitable. Je conçois difficilement une activité de recherche sans enseignement et réciproquement. Voilà, alors je pense, j'ai encore un certain nombre de choses à dire, je pense que le tableau très optimiste que j'ai brossé devant vous du dynamisme scientifique de ce domaine de recherche ne doit pas faire oublier la situation difficile dans laquelle la recherche se trouve actuellement. Vous savez qu'elle traverse une période difficile, qu'elle n'est plus considérée comme priorité par les autorités politiques, et les crédits dont elle dispose stagnent, diminuent, et que la France est petit à petit en train de décrocher du peloton de tête des nations qui, au contraire, considèrent la recherche comme une priorité absolue. Alors, ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans ce débat qui est très difficile et très long. Je ne pensais pas en parler. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai décidé d'en parler. Parce que il y a des ordres de grandeur qui me sont apparus tout à coup, la semaine dernière, et je voulais vous en faire part. Donc, je voudrais vous parler de cet ordre de grandeur en prenant un exemple concret que je connais bien, qui est celui des crédits de soutien, de base dont a bénéficié donc, la chaire de physique atomique et moléculaire depuis sa création, en 1973. Par crédit de base, j'entends les crédits qui ne sont pas finalisés, qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut, qui ne résultent pas de programme. Je ne parle pas des actions spécifiques, des contrats passés avec tel ou tel organisme. Alors, j'ai essayé de faire un peu le bilan et de voir sur 30 ans à quoi se sont élevés ces crédits de base. Au début, j'avais des crédits de fonctionnement du Collège de France de l'ordre de 100 000 francs, 15 000 euros. Bon, ils ont été très, très. Ils ont stagné pendant un certain temps. Ils sont passés, après 20 ans, à 40 000 euros, je crois. C'est-à-dire 300 000 francs, à peu près, un peu moins. Et puis après le prix Nobel, ils sont passés royalement de 40 000 euros à 60 000 euros. Puis, il y a des crédits d'équipement du Collège de France. Ça, c'est le Collège de France. Crédits d'équipement en informatique de l'ordre de 15 000 euros par an dans les bonnes années. À cela, il faut ajouter aussi les crédits du CNRS, entre 15 000 et 30 000 euros, certaines années rien du tout, d'autres années 30 000, d'autres années 15 000 euros, donc de sorte qu'en moyenne, à 10 ou 20% près, c'est une moyenne de 70 000 euros par an. Sur 30 ans, ça fait 2 millions d'euros. Alors qu'est-ce que nous avons fait avec ces 2 millions d'euros? Notre équipe a produit à peu près par an trentaine de publications dans des revues à comité de lecture. Ça fait donc un millier de publications scientifiques. On a formé 2 à 3 thèses par an. Ça fait 60 et 100 docteurs qui sont allés partout, dans toutes les facultés de France, à Orsay, à Paris-Nord, à Lille, à Rennes, à Nice, à Bordeaux. Donc on a contribué à l'établissement en France d'un réseau de scientifiques de grande valeur dans ces domaines. On a accueilli de 3 à 5 doctorants, post-docs, professeurs en séjour sabbatique venant de tous les pays du monde, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Italie, Hollande, Suède, Inde, Corée, Japon, Russie, Israël. Donc ça fait une centaine de chercheurs se sont succédés dans notre équipe, apportant leur culture, apprenant le français et contribuant à répandre dans tous les pays du monde un peu la culture française. Qu'est-ce qu'il y a d'autres conférences invitées? Il y a eu à peu près chaque année, on a 10 à 20 conférences invitées pour les chercheurs du groupe. Ça fait à peu près 600 conférences invitées internationales au cours de 30 ans. Puis il y a eu des distinctions internationales. 3 membres de l'équipe ont été élus à l'Académie des sciences, donc il y a 2 semaines. Donc ces 2 millions d'euros, je pense, ils n'ont pas été utilisés de manière stupide. Ils ont été utiles. J'espère d'ailleurs que, après mon départ, ce crédit qui venait par le Collège de France à mon équipe continuera à venir par d'autres sources. Parce que sinon, ça veut dire que cette équipe, ces équipes de recherche, qui sont extrêmement actives en ce moment, devront se disparaître et ça serait un gâchis absolument invraisemblable. Donc, j'espère que le fait que je parte, que je quitte cette chaire de physique atomique, ne va pas se traduire par une diminution drastique des crédits de cette équipe. Alors, là, je ne pensais pas parler de ces choses-là. Et la semaine dernière, après mon cours de mardi dernier, mardi après-midi, en lisant Le Monde, première page, je trouve, tombe là-dessus, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a fait un nouveau logo, et bon, il y a eu des travaux pour faire ce logo, certainement, il y a eu des discussions pendant un an pour expliquer ce qu'on fait, créer une nouvelle identité visuelle. Et ça a coûté 2,4 millions d'euros. C'est-à-dire plus que 30 années de recherche de 20 personnes. Là, j'avoue, il y a quelque chose qui me dépasse. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je trouve qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche, mais il y a de l'argent pour des opérations de ce type. Je trouve ça un petit peu. Je trouve que l'échelle de valeur dans notre pays est en train de prendre un tour que je ne comprends pas. Je voulais d'ailleurs, pour vous amuser, dire que j'ai une petite fille adorable qui a 5 ans, qui est à l'école maternelle, qui commence à faire dessiner des lettres et à faire des petits dessins, et ce qu'elle fait n'est pas très loin de ça. On pourrait l'avoir très bien fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu donner cette sorte de grandeur, parce qu'il est bon, de comparer ces chiffres à d'autres chiffres. Donc je compare ces chiffres à ceux de ce logo, qui a dû travailler un an de travail. Je n'ai pas comparé aux États-Unis. Aux États-Unis, nos équipes concurrentes, eux, ce n'est pas 2 millions sur 30 ans, c'est 1 à 2 millions de dollars par an. Donc, si on corrige du fait qu'il faut payer aussi des salaires là-dessus, pour des salaires de post-doc, salaires qui sont pris sur des bourses européennes, on arrive à quelque chose de l'ordre de 600 000 dollars. Donc, c'est un facteur 10. Le support de la recherche actuellement en France, comparé aux États-Unis, c'est un facteur 10. En plus, aux États-Unis, ce domaine de recherche a été très bien perçu par les responsables. Et par exemple, dans la région de Boston, il y a un nouveau centre qui a été créé, le Center for Ultra Cold Atoms, CUA, qui regroupe et fédère les laboratoires de Harvard et de MIT, et qui dispose de crédits très considérables pour créer des opérations communes. Pour l'instant, il y a d'autres efforts analogues qui sont faits en Autriche, en Australie, dans plusieurs autres pays du monde, et bon, j'espère, on essaie actuellement de le faire, j'espère que la région Île-de-France, qui contient tout un nombre d'équipes d'excellence dans ce domaine, comprendra l'importance et essaiera peut-être de constituer dans la région Île-de-France un réseau à temps froid comparable à celui qui existe aux États-Unis, par exemple à Boston. Bon, je ferme cette parenthèse du crédit, ce n'est pas l'objet, et je voudrais terminer cet enseignement par quelques remerciements. D'abord, je voudrais remercier les maîtres que nous avons eus, un certain nombre de gens qui sont ici, qui sont Alfred Kasser et Jean Brossel. J'ai essayé de montrer cette année à quel point la qualité de leur contribution, la qualité de l'atmosphère qu'ils ont su créer dans le laboratoire était importante. Et malheureusement, je suis certain que Jean Brossel aurait été très heureux d'assister à cette leçon aujourd'hui. Il nous a quittés en février et avec mon ancien élève et collègue Serge Haroche, nous avons décidé de consacrer une partie de nos séminaires, de regrouper une partie de nos séminaires cette année sous forme d'un symposium qui sera dédié à sa mémoire, donc en collaboration avec Serge Haroche, chaire de physique quantique, manipulation d'atomes et de photons, qui aura lieu le 16 janvier dans cet amphithéâtre, toute la journée. Nous avons aussi invité un certain nombre de collègues français et étrangers pour nous parler de leur recherche actuelle et puis pour nous parler des souvenirs qu'ils gardent de Jean Brossel. Je voudrais aussi remercier Anatole Abraham, qui a été à l'origine de ma nomination au Collège de France, de mon élection au Collège de France, c'est lui qui a suscité donc mon élection. J'ai essayé d'ailleurs cette année, j'ai parlé à plusieurs reprises de résonance magnétique, d'impulsion pi sur 2, de temps T2, d'équation de bloc, d'effet Lambdicke, d'effet Mosbauer, enfin l'enseignement qu'a dispensé Anatole Abraham au Collège de France a été, je crois, très important pour développer un certain nombre de concepts qui se sont retrouvés ensuite tels quels dans la critique des lasers. J'espère aussi, je vous ai montré aussi à quel point l'équipe de multiphotons de Châtelet, l'équipe de Manus et Minfray, a occupé une place importante dans la recherche sur les processus multiphotoniques. Et j'ai toujours été déprimé, je n'ai jamais compris pourquoi des physiciens de la classe de Claude Manus et Gérard Minfray ont été d'un coup éliminés de leur laboratoire sans avoir la possibilité d'y retourner, simplement parce qu'ils avaient 60 ans. Parce qu'à Châtelet, on a décidé de mettre les gens à la retraite à 60 ans, donc ces physiciens qui étaient en pleine productivité ont été stoppés comme ça. Heureusement, il y a encore des physiciens de très grande valeur dans cette équipe, ils continuent à produire des résultats importants. Je pense d'ailleurs qu'actuellement, des menaces pèsent sur la recherche fondamentale à Châtelet. Nous savons tous à quel point là, nous devons à la physique française qui s'est développée à Châtelet dans tous les domaines, physique des multiphotons, physique de la matière condensée, physique des particules, physique théorique, et je trouve que si on gâchait cette mine de talent, ce serait très grave aussi pour la recherche française. J'espère qu'on arrivera à stopper les menaces qui pèsent sur cette recherche de très grande qualité. Je voudrais aussi bien sûr remercier tous les jeunes chercheurs qui sont passés par notre équipe, tous les visiteurs étrangers, ils sont très nombreux, je ne peux pas citer des noms parce que j'aurais trop peur d'en oublier, parce que c'est des centaines. Je voudrais juste dire qu'un des aspects pour moi les plus passionnants de notre métier, c'est de la formation des jeunes chercheurs. C'est toujours merveilleux de voir quelqu'un qui rentre dans un labo, qui au début patauge, ne comprend pas bien, n'est pas à l'aise, et puis petit à petit il prend de l'aide, arrive à comprendre, arrive à prendre l'initiative, a des nouvelles idées, et petit à petit devient plus fort que vous. Ça, c'est, je crois que c'est cet aspect de la transmission du savoir et de l'enthousiasme est quelque chose de très important. Je voudrais aussi remercier bien sûr ma famille, parce que, comme vous imaginez, faire un cours nouveau tous les ans implique un certain nombre de sacrifices, des vacances, des week-ends passés à travailler, et sans la compréhension et l'appui de la famille, ce ne serait pas facile. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier le Collège de France, qui était très heureux dans cet établissement, par l'ambiance collégiale que j'ai trouvée, par la simplicité de l'administration. L'administration du Collège de France n'est pas bureaucratique, comparée à certaines universités. Quand on a des problèmes pour finir le séjour d'un chercheur étranger, on téléphone au personnel, au service du personnel, on obtient des mois supplémentaires. C'est une très grande facilité, très grande souplesse, une très grande confiance mutuelle entre les gens qui fait que la vie est plus facile. Bien sûr, je voudrais aussi dire à quel point j'ai été heureux d'assister à la transformation des nouveaux locaux. Je garde certes une nostalgie pour le vieil amphithéâtre de physique avec des bois, des chaises en bois, et puis une pente de plus de 45 degrés. Mais enfin, on trouve que cet amphithéâtre est superbe et que tous les locaux qui ont été construits, après les efforts de tous les administrateurs successifs, en particulier du dernier, Jacques Lovinsky, ont conduit à quelque chose qui est magnifique dans la région parisienne. Et les architectes ont su concilier l'atmosphère de tradition du Collège de France à une très très belle beauté des bâtiments modernes. Je dois quand même faire peut-être une critique. Je regrette, je ne sais pas si quelqu'un de l'administration est là. À plusieurs reprises, j'ai demandé, j'ai dit que cet amphithéâtre mériterait un vidéoprojecteur plus puissant et plus lumineux que celui-là. On ne soit pas obligé de fermer les lumières pour le voir, ça coûte 50 000 francs, ça doit être 1/500 du prix d'un logo. Et je crois que le Collège de France aurait pu se permettre ce luxe. C'est pas un grand luxe. Je pense aussi, je voudrais aussi à ce propos exprimer tous mes remerciements au personnel de régie du Collège de France et en particulier à tous les personnels qui sont là, qui m'aident à faire que les projections, que le système audiovisuel de cet enseignement est parfait. Ça vraiment, on a ici une assistance que je tiens à remercier très chaleureusement. Je constate aussi aujourd'hui que mon cours est filmé. Je dois dire que je n'ai jamais compris pourquoi tous les cours du Collège de France, environ plusieurs centaines de cours par an sur des sujets extrêmement passionnants et divers, ne sont pas systématiquement filmés et mis sous forme d'une banque de données. Avec les progrès de l'informatique maintenant, tout, n'importe qui dans le monde pourrait voir ces films. Je ne comprends pas pourquoi, ça, je trouve que c'est dommage. En ce qui me concerne, j'ai essayé de faire en sorte que tous mes cours soient rédigés, ils sont rédigés depuis le début et distribués aux auditeurs avant le début du cours, ou gratuitement, qui sont pris sur mes crédits de chaire, les 2 millions d'euros. Et je voudrais ici remercier particulièrement Franck Laloé, qui a fait un effort considérable pour me convaincre et pour le faire lui-même, pour mettre tous ses cours sur le web, sur un site web que je rappelle ici, que j'ai donné à plusieurs reprises. Tous les cours depuis 1973 sont sur ce site web, ils sont disponibles. Et je voudrais le remercier parce qu'il l'a fait avec beaucoup d'obstination. C'est lui-même actuellement qui met les cours sur le web, parce que j'en suis incapable, je ne sais pas faire ça. C'est lui aussi qui m'a convaincu de passer de l'écriture au tableau, transparent écrit à la main. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils regrettaient cette époque, au transparent sur ordinateur. Je dois le remercier quand même, parce que je trouve que maintenant c'est plus pratique et que ça permet de classer plus facilement ses documents et c'est beaucoup plus commode à utiliser. Je voudrais aussi remercier très vivement Zahir Bissi à l'École normale supérieure et puis le secrétaire Nicole Neveu qui ont fait le travail ingrat de scanner tous ces documents, de les classer, de faire des tables de matière pour les mettre sur le web. Il y a quelques mois, ma secrétaire Nicole Neveu m'a offert un CD sur lequel sont enregistrés tous les cours depuis 1973, sauf le cours de cette année qui n'est pas encore mis. Ça m'a fait énormément plaisir. À la fois, je trouve merveilleux d'avoir tout ça sur un petit CD, en même temps un peu déprimant, dire que 30 années de travail qui sont dans un petit disque de 10 cm. Enfin, et c'est pas le moins important, je voudrais remercier le public. Le public du Collège de France, c'est pas le public habituel d'une université. Les gens viennent ici non pas pour acquérir un diplôme, mais pour apprendre quelque chose. Et cette stimulation intellectuelle a été pour moi extrêmement importante. Je suis sûr qu'un certain nombre de domaines de recherche dans lesquels je me suis lancé n'auraient pas vu le jour si je n'avais pas bénéficié de cette stimulation. Je dois dire que je conserverai aussi un souvenir très, très agréable de ces mardis matins où on se retrouve un certain nombre de gens qui travaillent dans ce domaine de la région parisienne. On a l'occasion d'échanger des idées, d'écouter des séminaires sur des sujets extrêmement variés. Et j'espère que cette ambiance continuera par le cours de Saint-Jean-Roch et que nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer. Donc je voudrais terminer en vous exprimant tous mes remerciements pour votre fidélité, votre amitié. Merci.